Bonjour à toutes et à tous, et du coup merci d'être venu pour cette dernière partie. Merci de faire. De ces deux journées, ICAS et ses filles. Et donc cette. Et donc sur la faculté. Bon, je ne suis pas du tout sur le bon truc. Si c'est bon, c'est bon. Sur la durabilité, obsolescence, la question des labels et des savoir-faire, et ce qu'on a eu envie de faire pour cette table ronde, c'est mettre un petit peu en essayer de faire dialoguer deux aspects de la facture instrumentale, a priori très, très éloignés, donc la partie vraiment acoustique, travail du bois, et la partie numérique, et voir s'il y a des points communs, des éléments de dialogue entre ces deux aspects. Et évidemment, des questions d'obsolescence et de durabilité, on en reparlera, qui se posent dans des termes différents peut-être. On va peut-être commencer par un petit tour de table où je vous laisse prendre un micro. En fait, il y a tout le monde derrière le micro. Oui, on est... Et peut-être on peut commencer par Laurent. Donc, peut-être déjà, si vous pouvez vous présenter, et puis je crois que j'ai des slides aussi à passer, je peux passer en fond.
Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Laurent Potier, je suis professeur de musicologie à l'Université de Saint-Étienne, spécialisé dans l'industrie numérique de l'informatique musicale. Je suis responsable d'un master de réalisateur en informatique professionnelle, master professionnel, et puis depuis un an, responsable d'un master EMJM, c'est un master Erasmus Mundus, art, création, art et sciences, avec l'université de Porto et l'université de Katowice, qui a ouvert cette année. Voilà, je vais vous parler un peu donc, des instruments numériques et électroniques. Donc, j'ai aussi été pendant longtemps musicien. Jouant des instruments numériques, enfin des instruments électroniques plutôt, avant qu'ils soient numériques. Et donc, la question de la pérennité, je vais l'aborder avec l'obsolescence, avec un très très rapide parcours de l'histoire de ces instruments, avec voilà, plusieurs périodes clairement identifiées, la période des années 1920-1960, avec. Pas mal de nouveautés, enfin de recherches sur les instruments électroniques, donc deux particulièrement saillants, qui sont le térémine et les ondes Martineau. Parce que le térémine, c'est un instrument qui, depuis les années 20 jusqu'à aujourd'hui, continue d'être commercialisé sous différentes formes, parce que c'est un instrument qui a un contrôle. Qui permet un contrôle gestuel du son tout à fait innovant, soit juste en bougeant les bras. Donc là, dans la diapositive que vous avez ici, vous avez Léon Térémine lui-même, dans les années 20. Laurent Daillot, dans les années 2000, qui joue d'un instrument Térémine qui contrôle un ordinateur. Et puis à droite, la pièce Live Music de Thierry Demey, qui n'a plus rien à voir avec Térémine, mais. C'est une pièce dans laquelle le musicien joue dans l'air et contrôle les processus de synthèse et d'image. Voilà, donc un certain aspect du contrôle de la musique qui est avec le térémine et qui sont capables de voir différents développements. Le deuxième exemple, c'est les ondes Martineau. Ici, vous avez la classe des ondes Martineau du CNSM de Paris. Tous les haut-parleurs qui se posaient autour de l'instrument, enfin des diffuseurs. Une des caractéristiques de cet instrument qui n'est plus commercialisé depuis quelques années d'ailleurs, c'était la touche, ce qui permettrait, pour un instrument monophonique, et la touche permet de contrôler l'amplitude du son. C'est un dispositif très élaboré, très sensible, et des chercheurs. À l'université de Jussieu, on fait une étude du fonctionnement de cet de ce dispositif, et donc ça permet la création d'un objet qui s'appelle le toucher, commercialisé par la firme Expressivie récemment, pour contrôler sur quatre axes des instruments de synthèse. Donc on joue la main droite par exemple et on contrôle avec la main gauche. Voilà, donc deux instruments dont le dispositif Gespel a donné lieu à des innovations qu'on peut utiliser à l'heure actuelle. Diapositive suivante. Voilà, la deuxième époque, c'est les années 60, 70, 80. Les instruments, les synthétiseurs analogiques, avec permettant un contrôle direct sur le timbre par un grand nombre d'interfaces, de dispositifs, de boutons, de curseurs, de claviers, souvent sans mémoire. Donc là, on doit contrôler, on doit régler le son dans tous ces paramètres automatiquement. Pas automatiquement, je sais, avec le geste. Alors, ces instruments ont une durée de vie limitée. Maintenant, ils sont souvent remplacés par des instruments soit virtuels, sur ordinateur, soit il y a eu un regain ces 20 dernières années sur les instruments modulaires. Donc, on retrouve maintenant, après quasi disparition de ces instruments dans les années 90, 2000, on retrouve maintenant des fabricants qui produisent ces instruments électroniques. Pour ceux qui s'intéressent, je conseille la visite du musée de SMEP à Fribourg, qui regroupe des milliers d'instruments de synthétiseurs qui ont été, voilà, dans les années 80, on a trouvé pour une bouchée de pain. Il y a un collectionneur qui a acheté tout ce que vous pouvez trouver. Et donc il y a un musée extraordinaire là, où on peut essayer ces instruments, jouer avec. Donc un musée ouvert, actif. La suivante, voilà, troisième période, les instruments numériques, les instruments MIDI, donc possibilité de communiquer avec l'ordinateur. Donc on n'a plus du tout le contrôle gestuel, ça passe par des interfaces logicielles qui permettent de modifier, de travailler sur le son. Alors, le plus célèbre, c'est le DX7, hein, qui a été vendu à des centaines de milliers d'exemplaires. La firme Yamaha se relevait de la modulation de fréquence qui permettait d'avoir une qualité de son extraordinaire par rapport à ce qu'on pouvait avoir à l'époque. Alors, les synthétiseurs DX sont commercialisés. Maintenant, on a des versions virtuelles comme le synthétiseur FM7, FM8. Et là, pour l'anecdote, maintenant que je viens d'autre à la retraite, j'ai ressenti, enfin, c'était surtout après le Covid, j'ai ressenti mes synthétiseurs, notamment mes DX7, évidemment les piles étaient mortes, je les ai changées, après il faut retrouver tous les sons. Et pour réussir à récupérer toute une banque de sons, c'était très compliqué. C'était sur un programme Galaxy, on voit ici. Le programme FM7 peut les lire, mais il ne peut pas les envoyer. Donc j'ai passé des mois à chercher sur Internet. C'était beaucoup plus compliqué que je pensais, même avec ChatGPT ou plein d'intelligence artificielle. Mais j'ai fini par trouver un programme qui pouvait lire les formats Galaxy d'époque pour les envoyer en système exclusif vers mes synthés. Voilà. Alors, la période qui m'a beaucoup moins intéressé, c'est la période des échantillonneurs. Voilà, les années 90, les instruments analogiques disparaissent, les numériques sont remplacés par les échantillonneurs qui permettent de prendre n'importe quel son, son violon, son saxophone, l'hélicoptère, de le mettre dans la machine et puis jouer le clavier avec. Mais voilà, après, il n'y a plus aucun moyen de contrôle sur le timbre. On veut un nouveau timbre, il faut enregistrer un nouveau son. Donc c'est vraiment une pratique différente, sauf que depuis les années 60, 80% des fabricants de synthétiseurs voulaient avoir des appareils pour les musiciens, pour remplacer le piano, le flûte, etc. Donc avec l'échantillonneur, on avait la solution. À noter que certains compositeurs ont utilisé l'échantillonneur pour faire des pièces électroacoustiques, comme par exemple François Bernard Mach, un compositeur important français de musique contemporaine. Le studio Arzoy aussi, Et, mais alors là aussi, les chanteurs d'heure ont duré une vie qui fait, on n'en trouve plus, il y a beaucoup de chanteurs d'heure qui fonctionnent. Donc, ils font tout un programme de recherche pour essayer de remplacer ce outil par un ordinateur qui peut lire les anciennes versions des programmes pour continuer à jouer la musique comme c'est avec. Voilà, un dernier exemple, la synthèse par modèle physique, on revient, ce qu'on s'aperçoit que j'en demeure, il n'y a aucune expressivité dans son instrument de violon, c'est pas ça qui va me permettre de jouer comme un violon, évidemment. La synthèse par modèle physique reproduit un instrument pour l'informatique, en indiquant je veux des cordes en tel matériau, telle densité, telle longueur, telle tension, etc. Enfin, on va décrire l'instrument. Ça demande beaucoup de calculs, mais dans les années 2000, les ordinateurs sont suffisamment rapides pour qu'on puisse faire cette synthèse en direct. Donc Yamaha, encore lui, a lancé un synthétiseur VL1, une synthèse par modèle physique, mais qui a pas eu tout le succès escompté, parce que c'était quand même très compliqué. C'était pas encore. Il y a eu des exemples intéressants, mais ça n'a pas du tout été un succès commercial. Par contre, depuis quelques années, Yamaha a perdu le brevet, enfin, le brevet est arrivé à son terme. Donc maintenant, on peut utiliser ces technologies sur ordinateur pour faire la synthèse par modèle physique. Voilà, ça c'était une présentation d'un des aspects de mes travaux. J'en dirais peut-être un peu plus. D'ailleurs sur une autre de mes activités qui est d'essayer de préserver, de stocker des outils qui sont développés sur ordinateur avec des langages de programmation pour des pièces données. Donc c'est pas c'est beaucoup, par exemple à l'IRCAM, vous avez un compositeur qui arrive pour faire une pièce, on met à sa disposition un réalisateur d'informatique musicale qui va développer un programme spécifique, adapté à ce qu'il veut faire pour faire un certain sonore, le traitement de l'eau, etc. Mais ces programmes ont une durée de vie aussi limitée. À chaque fois qu'on change de système d'informatique, on change de version de programme, il faut faire des portages. Et donc, on travaille sur un projet qui s'appelle Anthony, constitution d'une base de données collaborative qui a été lancée, ça fait depuis 2018 qu'on travaille sur ce projet. Et là, le mois dernier, on a fait la sortie officielle de la première version opérationnelle. C'est une version qui permet à toute personne qui produit de la musique électronique de venir sauvegarder son programme. C'est gratuit et libre. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Laurent, pour cette première présentation. On va continuer, je ne sais pas, on va continuer avec Sylvie Foilon, si vous voulez vous présenter un petit peu votre parcours.
Eh bien, oui, bonjour. Donc, moi, je suis restauratrice de pieds anciens. Je viens juste après mon éminent collègue Christopher Clark, puisque je restaure des pianos entre 1840 et 1940. Alors, pourquoi cette année-là? Parce que c'est l'avènement, en gros, je schématise pour aller vite, du marteau-feutre, et donc de la sonorité des pianos que nous connaissons tous, et qui vont progressivement équiper les maisons bourgeoises, puis les petits bourgeois, puis monsieur tout le monde, jusqu'à la dernière guerre, qui voit arriver évidemment après l'industrialisation du piano, l'envahissement du marché par les grandes marques type Yamaha, sans oublier les autres. Et donc ça correspond à toute une période d'une esthétique sonore qui aujourd'hui légèrement dépassée par la production neuve et qui correspond à un patrimoine familial qui est toujours transmissible. Donc moi je travaille le bois, le feutre, le métal. Je ne change pas les caractéristiques spécifiques d'un instrument, c'est-à-dire que je ne cherche pas à changer son caractère pour le mettre au niveau du neuf. Faire une compétition qui, à mon sens, n'a pas sens, justement. Par contre, je dois, la plupart du temps, remplacer les pièces de structure pour que l'instrument reprenne le même temps de vie. Alors, je suis donc un petit peu ébéniste, menuisier, vernisseur. Je ne travaille pas avec des produits chimiques, puisque je ne remplace pas des pièces anciennes par des pièces modernes. Je n'utilise pas de colle d'origine, je n'utilise que des colles d'origine animale. Et je fais en plus des vernis type Gomac. Je n'utilise pas de produits chimiques. Mon travail consiste à transmettre cette esthétique sonore qui correspond à chaque facteur d'instrument qui a fait la grande époque du piano français, la française, c'est-à-dire les Guerra, et puis tout le piano européen, notamment les Allemands qui ont beaucoup importé en France. c'est un travail de longue haleine parce que le piano est un tout, c'est un instrument, c'est une machine qui fait qu'on doit pouvoir le toucher, l'entendre et le voir. Donc c'est, on nous classe dans le métier d'art, mais nous sommes un petit peu à part, comme disait tout à l'heure Fanny, dans le sens où quand vous demandez à un ébéniste de très haut niveau de restaurer une colonne de très haut niveau, de tel style, il va la faire parfaitement, la pose dans la regarde et puis on s'en satisfait. On n'ose même pas ouvrir les tiroirs parce qu'on va être réallumé. Alors qu'un instrument de musique, il doit être joué. Il faut donc qu'il plaise et qu'il corresponde à l'image qu'on a. L'image qu'on a, c'est le mot est exact, de l'univers sonore de l'époque. Donc, si on s'amuse à changer les pièces de l'instrument, on va nécessairement, la plupart du temps, changer son son. Et ce n'est pas le but de notre démarche, qui est de conserver cette esthétique sonore. C'est le principal but, c'est-à-dire que toute cette matière matérielle, mis en branle, ne met qu'une définition simple à la fin, c'est l'immatériel, le son. Le son, on peut en parler pendant des heures et des heures. On peut discuter du beau et du joli, mais ce qui compte, c'est que les instrumentistes reconnaissent que le piano leur permette de se réapproprier la partition qu'ils étudient et qu'ils vont eux-mêmes d'ailleurs interpréter. On ne va pas rentrer dans les détails techniques sur la qualité des bois qui sont utilisés, qui nous permettent des feutres, parce que là, ça serait trop long pour notre petit art qui nous appartient. Mais c'est vrai que nous heurtons un gros problème de fourniture, puisque les matériaux qu'on utilise aujourd'hui sont de moins en moins équivalents à la qualité de fabrication qu'avait un matériau autrefois. Ce qui va forcément impacter le son, puisque vraiment chaque petite chose est importante dans cet ensemble piano. Voilà. Donc, moi je fais ça depuis 44 ans, parce que j'ai commencé à l'âge de 15 ans d'apprentissage dans la même maison, les pianos baron que je pérennise, qui sont à Paris depuis 1902. Voilà.
Super, merci beaucoup. Et nous allons continuer par Christopher Clark.
Donc, j'arrête mes activités dans l'histoire à peu près au moment que Sylvie les prenne. Je suis restaurateur, je suis facteur, fabricant des instruments qui datent de la fin du XVIe siècle jusqu'à à peu près 1848. C'était l'année de la Révolution qui a révolutionné aussi la facture des instruments, surtout des pianos. Mon approche est vraiment basée sur ce qu'ils faisaient à l'époque, avec le plus possible, avec les méthodes d'époque. Donc je suis ébéniste. Je travaille également, évidemment, toutes sortes d'autres matières, les cordes, en fer ou en béton, les peaux, les premiers feutres. Et chaque instrument est évidemment le produit de son temps et est profondément définie par les matières qui étaient mises en jeu. Donc j'essaie au mieux de rechercher les matières d'origine ou des équivalents. J'ai toujours été beaucoup plus dans la restauration que dans la fabrication. Donc j'ai commencé en tant qu'étudiant à l'université d'Edimbourg. Il y a toujours une très belle collection de clavecin et de clavicorde, le Russell Collection. Et donc, dans un premier temps, quand j'étais étudiant, les responsables de cette collection m'ont aidé à restaurer. Bon, j'ai commencé avec des harmoniums, ensuite des pianos carrés. Quand j'ai mes lettres, je suis allé dans un petit musée dans le nord de l'Angleterre où j'ai restauré un piano carré. Et le fait d'être dans le circuit des musées m'a ouvert un stage au Gemeinschaft National Museum à Nuremberg, qui était vraiment un centre de recherche et vraiment de pointe à cette époque-là. Donc j'ai fait un stage de 5 mois, suite à laquelle j'ai été proposé un boulot à mi-temps à Edimbourg dans le Russell Collection. Donc j'ai occupé ce poste pendant 2 ans, restauration principalement. J'ai travaillé aussi en parallèle chez moi pour mes premières copies d'instruments. Et j'ai été embauché ensuite par une entreprise en Angleterre, Adam Burnett, qui était aussi à la pointe de la facture à l'époque. Il s'était attaché à un musée de piano ancien, à Pinchcross. Et donc j'ai passé 4 années là où j'ai vraiment appris les bases de mon métier. Il y avait de très bons ébénistes, on était 10 personnes. C'est une sorte d'académie qui n'existe peut-être plus en ce moment. Par la suite, je me suis installé en France en 78. On était 3 à partager un atelier à Paris, qui est en permanence illégal. Donc c'est Jean-François Chauderge et Émile Jobin qui continuent toujours, chacun de son côté. Voilà, donc j'ai fait ma première copie de pianoforte à Paris, entre autres. Et depuis, je me suis consacré à des restaurations toujours et de plus en plus à la facture des copies qui sont des facsimilés. Et pour moi, c'est une façon d'explorer ce qu'on voit dans les instruments anciens. Ça permet de les entendre sans avoir à toucher les originaux. Parce que, évidemment, si on touche les originaux, on les répare, on les met en jeu, mais on est toujours obligé de prendre des décisions de ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, ce qui est original et pas, de retrouver des matières de substitution parfois. Donc forcément, quand on restaure, on change un petit peu le narratif d'un instrument. En faisant un facsimilé, on change peut-être l'histoire, mais c'est seulement de cet instrument-là. On peut le mettre à la poubelle si besoin. Donc c'est pour moi, c'est le côté propre de la restauration, de l'exploration des instruments anciens. C'est pas pour dire que je ne continue pas à faire les restaurations, mais c'est toujours avec un grand respect de narratif qu'il peut faire cet instrument dans l'histoire de l'instrumental. Donc ce qui m'intéresse, c'est le travail artisanal, et jusqu'à à peu près 1830 et surtout après 1948, chaque instrument à clavier, c'était possible de le faire artisanalement. Il commençait à avoir des méthodes mécanisées et industrialisées en quelque sorte à partir des années 20 et 30, 1823, j'entends dire. Mais le basculement entre l'artisanat et l'industrie, pour moi, est après 1948. Pourquoi ? Évidemment, nous, en tant que facteur d'instruments de musique, on est un peu superflu n'a pas besoin, tout le monde n'a pas besoin d'un instrument de musique pour vivre. Et avec la Révolution, les commandes des instruments a cessé abruptement. Et il y a un bouquin très intéressant par Mario N sur la facture instrumentale à Paris au 19e siècle. Et donc elle raconte que trois quarts des personnes qui étaient ouvriers ou acteurs dans la facture instrumentale en 1948 ont été au chômage. Donc la crise, c'est pas seulement aujourd'hui. Ça a repris après, mais c'était surtout les grandes entreprises qui ont pu survivre et de plus en plus ont se spécialisé dans certains aspects de la facture et pour les petits facteurs, c'était un assemblage des pièces qu'ils ont achetées chez les spécialistes. Pour les grands, il y avait des ateliers au sein de la manufacture. Donc c'est devenu beaucoup plus mécanisé, beaucoup plus standardisé, et les différences entre instruments, c'était beaucoup plus dans l'ébénisterie de la caisse, le décor. Mais l'instrument de base était très semblable à tous les autres. Voilà, c'est pour moi l'intérêt aussi, cette relation physique avec la matière. C'est très sensuel. Chaque moment, par exemple, quand on rabote avec un rabot bien affûté, ça fait un son comme ça. On sait bien que ça coupe bien. On voit que ça coupe bien. C'est vraiment une surface très lisse et très agréable. Et ainsi de suite pour toutes les autres matières. Donc c'est une relation charnelle, si on peut le dire. Et c'est cette relation charnelle qui produit le son. Et c'est, donc j'essaie d'approcher la facture instrumentale ancienne de l'intérieur de cette manière. Cette image, on avait fait que. Votre première question, en fait, c'était la durabilité des matières. Donc, voici des marteaux de piano, un piano pont de 1837. Et vous voyez donc les marteaux de graves avec plusieurs couches de peau à l'intérieur et puis une couche de feutre un peu bizarre à l'extérieur. Donc là, ce feutre-là, c'était inventé par Jean-Henri de Pape. Il a pris un brevet en 1826. C'était la première utilisation du feutre pour les marteaux de piano. Donc c'est un petit peu comme le marteau, c'est un petit peu comme l'archet pour un instrument à cordes. Et la qualité du son dépend beaucoup, beaucoup de lui. Cette matière était, vous pouvez voir, donc c'est une couleur verte, et là c'est de l'arsenic en fait, parce qu'il voudrait empêcher les mites de manger ces marteaux. Et il y a deux couches, une couche un peu plus sombre, et puis une couche extérieure, on voit bien que c'est beaucoup plus aéré. Et en fait, ces deux couches ont des compositions différentes. Il y a des poils, il y a de l'édredon, il y a de bourre de soie, des poils de lièvre et de lapin. Et pour chaque couche, donc chacun de ces deux couches, c'est une composition un petit peu différente. Et quand on fait un feutre, on a donc toutes les fibres qui sont un petit peu en vrac, qui sont sur une toile. On fait vibrer la toile qui fait sauter toutes ces fibres. Et puis ensuite, on fourre toutes ces fibres ensemble avec de la chaleur, avec l'humidité. Et ils s'imbriquent intimement les unes aux autres. Et ça fait du feutre à la fin. Donc, pour faire un feutre de 5 mm d'épais, on commence avec une couche de fibre qui fait 2 cm à peu près. La particularité de ces feutres du pape, c'est que avec ces deux compositions différentes, ça réagit différemment au foulage. Donc il y a la couche intérieure qui est un peu plus sombre, qui devient très compacte avec le processus du feutrage. L'autre couche qui est intimement liée, parce qu'ils étaient foulés en même temps, est très aérée. Le résultat, quand on met sur le marteau, c'est qu'on a un extérieur qui est extrêmement doux, extrêmement diffus. Si on joue très doucement, le son vient absolument de nulle part. Ça onfle, mais on n'a aucun effet de percussion. Si on joue plus fort, la frappe pénètre plus loin dans le marteau et on pénètre donc dans cette deuxième couche qui est beaucoup plus ferme. Et là, on peut obtenir un vrai forte. Le son devient assez brillant. Donc il y a une énorme panoplie de couleurs qui sont possibles avec ce feutre-là. Malheureusement, ces feutres étaient très tendres, comme je vous ai dit, et ça s'usait assez vite. Donc, il y avait une durée de vie pour un piano qui est utilisé quotidiennement de peut-être 5 à 10 ans. Ça veut dire qu'il fallait regarnir les marteaux. Et il y avait plusieurs expériences à l'époque pour différentes matières pour faire du feutre qui remplaçait le cuir dans les marteaux. Et ce n'est qu'en 1841 qu'il y a M. Billion qui a perfectionné un feutre fait de laine. Mais c'est une couche uniforme. Donc c'est beaucoup de marteaux de feutre en pape ont été par la suite remplacés par ces feutres Billion une dizaine ou une quinzaine d'années après. Et ça changeait complètement le timbre des instruments. Et en fait, on ne connaît pas, que je sache, des instruments qui ont toujours des feutres de pape qui fonctionnent et qu'on peut entendre. Parce que c'est une matière qui était tellement éphémère, même si c'était extraordinaire, que en fait, c'est devenu obsolète et ça a été remplacé par un autre qui est grossier, on peut le dire, parce qu'on n'avait pas toutes ces possibilités de couleurs. Et les seuls instruments où les marteaux en feutre pape ont subsisté, c'est des épaves. Donc là, ce piano est une épave. Mais j'ai quand même pu accorder quelques notes et faire sonner, et j'étais ébahi. Donc là, évidemment, avec ce feutre en laine, c'est commence l'histoire de cette vie. Et il y a tout un pan d'instruments où, en fait, même avec tout l'intérêt qu'on porte aujourd'hui aux instruments anciens, on n'a jamais entendu. Il y a quelques expériences soi-disant de recréer ce feutre, mais à mon avis, je n'ai pas été convaincu par aucun des expériences que j'ai entendues. Mais voilà, donc c'était un peu pour dire l'importance des matières dans la facture, dans l'essence de ce qu'on entend, et aussi le côté éphémère que certains aspects peuvent avoir.
Merci beaucoup pour ces trois témoignages, c'était passionnant. Quand je vous ai envoyé un mail pour préparer un petit peu cette échange, on reviendra sur les matériaux un petit peu, mais je voulais parler de ça aussi pour faire le point avec ce dont on a parlé ce matin. Quand je vous ai envoyé un mail, Sylvie, vous m'avez répondu tout de suite sur la question de l'obsolescence. Vous m'avez tout de suite parlé de la question économique et en fait que la pérennité des instruments de facture instrumentale. C'était surtout lié à des questions d'obsolescence du modèle économique, ou de la survie économique des facteurs d'instruments. Est-ce que vous pouvez être un petit peu
parler de ça? Oui, alors tant que restaurateur, bien sûr, quand on m'apporte un piano qui est entièrement détruit, c'est-à-dire qui ne qui est totalement hors d'usage et qui nécessite de remplacer des pièces de structure importantes pour pouvoir fonctionner de manière pérenne, en tout cas à un bon moment, dans les années, se pose la question économique. Est-ce que c'est le jeu en vaut la chandelle? Ça, c'est la question que je me pose systématiquement, puisque aujourd'hui, cette obsolescence qui existe elle est dans le marché économique. Étant donné qu'on a continuellement toutes sortes de vagues de pianos récents d'occasion, dont les prix dégringolent, un peu comme le marché des voitures, c'est la même chose, et qui donc se retrouvent sur le marché d'occasion pour moins cher que le prix du travail, avec une bonne, un bon taux horaire d'artisans comme nous, qui vont prendre 200, 300, 600, 800, 1000 heures de travail pour remettre le piano en état de jeu pour un. Longues années d'usage. Donc la plupart du temps, les gens se disent bon, ben voilà, ce n'est économiquement pas viable. Il y a même des écoles qui me disent vous pouvez faire de l'entretien, mais si la structure est à remplacer, c'est économiquement pas viable. Donc poubelle de piano, racheter un œuf, faire donc fonctionner un réseau économique qui n'est pas du tout en corrélation avec l'idée que nous avons, nous, artisans, qui travaillons dans un contexte artisanal. Même si on doit payer nos factures aussi. Nous, notre travail, que ce soit dans la recherche muséale ou de conservation des choses anciennes pour la préservation du patrimoine, et nous, les objets courants utilisés, parce qu'un vélo chez soi, normalement, pour les musiciens, on l'utilise. Il faut pouvoir, j'ai vraiment fait peur. Que la conservation de cette chose-là est en rapport avec, c'est ça que je voulais dire, avec son intérêt personnel, la transmission d'une chose. Je viens de terminer, par exemple, la restauration d'un Büttner 1,95, ça s'appelle un grand quart de queue, fabriqué en 1902 à Leipzig, qui appartenait à la même famille depuis que l'arrière-grand-père l'a acheté. Donc, l'arrière-petit-fils m'a contacté pour le restaurer parce que lui-même a un enfant de 6 ans et une petite de 3 ans. Et donc la cinquième génération, grâce à ma restauration, va pouvoir, en restauration complète, avec le changement du sol et des chevilles, le remplacement du chevalet, parce que tout était fendu, parce que la sécheresse et l'humidité, ça a fait beaucoup de dégâts sur le piano. L'esthétique avec un joli meuble, un joli vernis à l'ancienne. Et donc ce piano est reparti pour la cinquième génération pour apprendre la musique. Donc il y a une notion de transmission qui dépasse simplement la vente d'un objet et une rentabilité directe. C'est un peu. Moi j'ai toujours l'habitude de dire, je ne suis pas commerçant, je suis artisan. Donc quand on vient et qu'on me dit oui, vous êtes trop cher, oui, mais je ne vais pas aller sous pour acheter ce piano, je dis tu sais, je suis trop cher à aller voir ailleurs, et si vous n'avez pas de sous pour acheter des pianos, allez voir ailleurs aussi. Parce que moi je restaure des instruments, que ce soit pour la restauration des clients, mais aussi la restauration pour la vente que je fais. Je choisis des instruments qui ont encore un potentiel sonore. Je les restaure au plus proche de l'origine en respectant le facteur. Moi, je travaille contrairement à Christopher avec des objets qui ont été manufacturés dans des manufactures. Donc, c'était déjà une grosse production avec des objets qui étaient déjà calibrés. Donc, je peux retrouver des pièces, alors que Christopher, la plupart du temps, il faut les fabriquer. C'est un vrai problème. Pour revenir à la question des matériaux, comme dans l'industrie du piano, on est quand même, ça a démarré quand même il y a longtemps, par exemple les feutres étaient calibrés, donc on pouvait encore il y a 20 ans acheter auprès des fournisseurs des feutres calibrés qui correspondaient au piano ancien de ma période. Aujourd'hui c'est plus possible parce qu'ils ne le font plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de demande et toutes les usines baissent leur coût économique. Donc ils ne répondent qu'à la production dont ont besoin les dernières grandes marques étrangères. Ils ne sont pas du tout calibrés sur nos anciennes mécaniques, bien évidemment. Donc notre démarche artisanale, elle se retrouve évidemment confrontée à cette situation économique, parce que, comme Christopher, si on doit aller chercher auprès d'autres fabricants, dans d'autres métiers, des étoffes, des draps, faire fabriquer des peaux, faire des recherches pour trouver des peaux qui sonnent le mieux possible, les cuirs, même la densité des ressorts. Avant, autrefois, on avait plusieurs ressorts qui correspondaient à chaque marque, puisque chaque marque faisait sa propre mécanique. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'une référence, c'est le ressort des mains, point barre, il n'y a plus de discussion. Donc si je dois fabriquer toute pièce qui équipe un piano, aussi complexe qu'il est, économiquement c'est absolument impossible. Donc l'obsolescence, elle est là, elle est dans la continuité économique. Tant qu'il y aura des gens qui sont vraiment intéressés à la transmission du patrimoine au sens large, au patrimoine musical, au patrimoine de la famille, et s'il y a toujours des artisans avec la volonté de vivre comme nous le faisons nous, dans nos ateliers, avec notre éthique, oui, il y a peut-être une transmission.
C'est évident que bon, on est du même côté. Je suis retraité actif et je dois dire que je n'ai jamais été si bien loté que maintenant, parce que tous les mois je reçois des sous. C'était loin d'être le cas avant. Oui, pour la rentabilité, quand quelqu'un m'approche pour restaurer leur instrument, j'ai dit, je donne un ordre de prix et je leur dis que bon, c'est, on ne peut pas forcément ajouter ça aux valeurs de l'instrument. Vous devez être intéressé par l'instrument lui-même, le faire pour lui, pour le patrimoine, mais oublier la rentabilité de cette opération. Il y a mon ancien employé, Mathieu Vion, qui fabrique des choses absolument extraordinaires, bien mieux que moi pour beaucoup. Lui, il est confronté vraiment de front par toutes les aléas et les difficultés que ces vies exposées.
En fait, nous avons acquis un certain savoir-faire qui nous a permis d'obtenir des récompenses, des titres d'État. Que ce soit par le Mathieu Lyon, qui est son ancien élève de Notre-Dame, qui est capable de vous fabriquer une copie d'un piano Streicher de 1790, qui est pratiquement absolument identique et qui est musicalement reconnu par des musiciens éminents de la Haute École de Genève. Donc, ce sont des projets et des capacités qui sont en dehors de toute considération commerciale. On ne peut pas demander à une entreprise, faites-moi ça, il serait rentable, ça ne marche pas comme ça. Par contre, le temps qu'il a fallu à Mathieu, à Christopher, pour transmettre à Mathieu, et le temps que Mathieu a eu de mettre à maturité l'enseignement retenu, pour faire ça, c'est un modèle économique, moi je suis persuadée, qui ne tiendra pas dans le temps prochain. C'est-à-dire qu'un jeune aujourd'hui qui veut arriver pour devenir ce qu'est Mathieu, il me semble que c'est impossible économiquement de pouvoir tenir, pour pouvoir faire ce même genre de projet, sauf à baisser la qualité du travail, donc de l'instrument, parce qu'on va baisser le temps de travail. Parce que dans notre métier, ça, hein, c'est le temps qu'on va passer, il est complètement pas chiffré. Donc on est obligé en fait de faire des travaux forfaitaires. Les comptables sont jamais contents.
Mathieu, en fait, a bénéficié de subventions de la CEMA, donc Société de l'encouragement des métiers d'art, qui n'existe plus, bien sûr. Donc là, c'était quand même une somme qui était versée pendant 3 années, chaque année. Et vu la qualité de la transmission, si on peut le dire, ce que Mathieu était en train de faire, ils ont quand même étendu ça 4 années. Et ça a permis, moi, comme son maître, si on veut, de lui proposer des travaux qui n'étaient pas rentables. J'ai insisté qu'il fasse un chef-d'œuvre à la fin. Donc il a fait une magnifique copie de clavicorde qui est au musée de la musique, avec toute la marqueterie. La cliente était ravie parce qu'elle a reçu, pour le prix d'un instrument simple, elle a reçu ses splendeurs. Et ça a permis à Mathieu de se dépasser complètement.
J'ajouterai pour la transmission des savoir-faire. Je suis également maître d'art, je transmis dans le cadre du dispositif maître d'arrêt à mon ancien élève Marie Lény, qui est installé dans son atelier à Chambéry, l'amour de la restauration des pieux anciens. Donc, elle-même est aujourd'hui confrontée à la même demande, puisqu'il s'agit d'une restauration importante, de se retrouver face à des clients qui soient capables de payer le prix du savoir-faire que nous avons. Donc, on nous a aidés, enfin, l'État nous a aidés, puisque le titre maître d'art continue, et maintenant il est réduit, c'est plus 4 ans, c'était 3 ans pour nous, puis maintenant c'est 2 ans. Donc, on essaie de réduire la capacité à transmettre ce savoir-faire. Donc, il y a un moment forcément dans la roue qui tourne, où non seulement les savoir-faire sont plus transmis à un bon niveau, et deuxièmement, les clients n'auront pas forcément le prix, le montant, l'argent pour payer pour le travail. S'il faut travailler 44 ans pour moi et un peu plus pour Christopher et redevenir à un taux horaire très bas puisque la demande économique est très très importante, moi je dis tout de suite que je préfère arrêter de travailler plutôt que de continuer un travail assez difficile, contraignant, qui fait mal un peu partout. On a parlé tout à l'heure, j'ai entendu que c'était difficile de travailler avec des objets qui sont de polluants. Plus il y a des veines, j'ai entendu parler, mais il y a plein d'autres choses. Tout ça pour travailler à 10 euros l'heure, au même prix que les Polonais qui envahissent le marché de restauration de très mauvaise gamme parce que c'est pas cher. Ben oui, effectivement, il faut s'arrêter. Donc, si des artisans comme nous s'arrêtent, la transmission de toute façon s'arrête. Donc, les vraies questions, c'est est-ce qu'on veut continuer? Est-ce qu'il y a assez de gens qui sont capables de faire des projets musicologiques très importants, de conserver tout le patrimoine ancien qui a disparu, selon tout ce qu'a expliqué Christopher? Tout notre patrimoine de nos factures instrumentales qui ont existé jusqu'à monsieur avec ce numérique. C'est l'instrument du numérique. Est-ce qu'on veut aller jusque-là ou est-ce qu'on laisse les choses se faire et disparaître et faire découvrir de nouveaux métiers? Moi, si je parle simplement de ma famille, mes petits-neveux ne s'intéressent absolument pas du tout au métier d'art. Ils sont tous tournés vers l'IA, la technologie, l'espace. Voilà. Donc, c'est une grande question.
Oui, merci de revenir au numérique, c'est intéressant. J'avoue que j'ai l'impression qu'il y a quand même un parallèle, alors c'est pas du tout les mêmes temporalités, évidemment, sur des échelles de temps beaucoup plus réduites, l'évolution des synthétiseurs, l'évolution des logiciels, tout de suite. Mais j'ai l'impression qu'il y a ces mêmes questions de est-ce qu'il y a des pratiques qui se maintiennent, des compositions qui se maintiennent, est-ce qu'on maintient les œuvres dans le temps? Hier, on avait Greg Orban qui nous a fait une démonstration de Télémine, du coup, donc ça veut dire que. Pour maintenir ces instruments électroniques, numériques, il faut qu'il y ait des pratiques, il faut qu'il y ait des compositeurs. Est-ce que du coup le numérique n'est pas aussi un petit peu, il se détruit un petit peu par la recherche de nouveautés permanentes, un peu comme il peut y avoir pour les instruments aussi également?
Alors il y a plusieurs points. Tout à l'heure j'ai évoqué les instruments. Les synthétiseurs qui étaient des plugins maintenant qu'on peut mettre dans des séquenceurs. Par exemple, le DX7, j'ai joué pendant des années, je suis continué à jouer le DX7, et l'émulation, elle, on va dire, elle est à 99% fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on retrouve exactement les mêmes sensations, les mêmes timbres. Par contre, les synthétiseurs comme le Minimoog, que j'ai beaucoup pratiqué aussi, c'est un des instruments les plus connus. Il y a eu des centaines d'émulations, j'en ai jamais trouvé une qui donne les mêmes sensations que l'original. Sans compter du fait qu'évidemment, sur le coup, on a la possibilité de modifier très précisément le son. Un autre point, c'est que nous, ce sur quoi on travaille actuellement, c'est plus vraiment sur des instruments, c'est directement sur le son. Donc je peux citer trois exemples qui sont assez frappants. Par exemple, Karl Heinz Stockhausen. Ses premières œuvres électroniques, c'est des œuvres qu'il a fait avec des générateurs de bruit qui passaient dans des filtres très serrés, donc qui laissent passer pratiquement une fréquence presque pure. Et il a fait ça, il a fait l'étude numéro 3 en 1953. C'est l'addition de plusieurs de ces fréquences, chacune avec des enveloppes différentes, une fréquence. Et pour faire ça, il enregistre un son sur un métaphore à la bande. Ensuite, il va rajouter d'autres. Il va jouer le premier de fond d'abord plus le deuxième son pour faire un mix. Il y a 5 sons à faire mixer, donc à chaque fois, ça rajoute du bruit, etc. Et par contre, je Cologne, il note tout. Donc on a une partition numérique qui dit ce son-là, il s'est formé telle fréquence, de telle position à telle position, en millisecondes, en amplitude pareille. Donc c'est, avec un objet actuel, c'est très facile de refaire exactement ce qu'il a fait. Enfin, sauf que lui, il a pris des journées pour faire ça en un quart d'heure. Mais il y a plusieurs reconstructions qui ont été faites de cette heure, sauf qu'il y en a qui l'ont fait avec une onde sinusoïdale, au lieu d'un bruit pas filtré, donc le rendu n'est pas du tout pareil. D'autres qui l'ont fait avec du bruit blanc filtré, mais il n'y a pas le souffle produit par les magnétophones, donc ça sonne très différemment aussi. Voilà, donc ça c'est le premier exemple. Deuxième exemple, j'ai personnellement travaillé sur une pièce de John Charmin, qui est un des pionniers d'informatique musicale, qui a fait des œuvres dans les années 70, entièrement produites par ordinateur, une pièce qui s'appelle Turenas par exemple, dans laquelle tous les sons ont été produits par synthèse, et donc je l'avais rencontré, et à un moment où il venait de retrouver tous les listings qui avaient permis de produire les sons sur un langage de l'époque. Donc j'ai traduit ce langage dans ce programme dans un langage actuel. Et puis, comme c'est, au départ, c'est une pièce produite par ordinateur, donc c'est, au résultat, c'est une bande de 4 pistes. Et moi, ce que j'en ai fait une pièce temps réel, c'est-à-dire que tous les sons, j'ai essayé que tous les sons allaient être joués par des musiciens. Donc, c'était assez clairement visible dans la musique. Il y avait en gros entre 4 et 5 voix maximum. Et donc, j'ai fait un programme produire tous les sons en direct, en temps réel, c'est la synthèse FM d'ailleurs. Et après, j'ai demandé à la classe de percussion du conservatoire des musiciens pour jouer cette pièce. Et là, le compositeur est venu. Alors, évidemment, il y a des choses différentes. Il y a des choses qui sont injouables parce que trop rapides, par exemple. Dans ce programme, il y a deux niveaux dans le programme. Il y a le programme dans lequel il donne des instructions de haut niveau, du genre, par exemple, 10 secondes, je veux des notes, une fréquence aléatoire entre temps et temps, une note toutes les 10 millisecondes. Je me dis, dans ce cas-là, est-ce que les musiciens jouent exactement les notes qu'ils font, ou est-ce qu'ils jouent des notes et c'est un générateur aléatoire, par exemple. Voilà, donc il y a eu une collaboration avec le compositeur pour arriver à un résultat qui a été joué en concert, qui a été joué à l'université Stanford, en Chine, etc. On a fait plusieurs tournées avec. Donc une pièce qui est fixée sur bande. On a pu rendre interactif parce que la technologie de l'époque ne permettait pas ça. Et troisième exemple, c'est un cas actuel, c'est que je travaille actuellement avec des musiciens de l'ensemble orchestral contemporain, qui est basé à Saint-Étienne, Tom et Schubert, le flûtiste de l'ensemble, et qui avait envie de reprendre une pièce pionnière de l'informatique musicale, temps réel, qui s'appelle Jupiter de Philippe Manoury. Une pièce qui a été créée à l'IRCAM en 86 et qui est une des premières pièces utilisant le langage Max, l'ensemble Max, qui est à l'heure actuelle un principal langage utilisé à l'IRCAM et par les compositeurs contemporains ou autres pour fabriquer des instruments de synthèse de traitement sur mesure. Donc là, il y a une pièce, Jupiter, c'est une pièce pour flûte et électronique, d'ailleurs, qui peut en parler tout à l'heure avec Antonio, je ne sais pas si c'est encore là. Antonio, c'était un écho sur la flûte midi qui avait été faite à l'IRCAM au départ pour jouer cette pièce-là. L'ordinateur n'était pas capable d'analyser le son dans les années 80, donc il y avait un système de captation de niveau, etc. Et donc tous les sons électroniques de la pièce sont produits par ordinateur à partir de la captation du son de la flûte. Donc c'est une pièce assez importante du répertoire, à la fois parce que c'est la naissance du programme Max, et puis c'est une pièce qui a été jouée. Alors elle a été portée, au départ c'était joué sur l'ordinateur 4X de l'IRCAM, un énorme monstre. À l'époque, les ordinateurs l'IRCAM fabriquaient des ordinateurs, parce que les ordinateurs du commerce étaient incapables de faire de la synthèse sonore. Après, ça a été porté sur la deuxième génération, les ordinateurs Next, et puis après, ça a été porté sur Mac, après sur Windows, etc. Sur Max, sur QData, donc tous les 5 ans, il y a des RIM à l'IRCAM qui font une nouvelle version. Voilà, c'est ça qu'on doit perturber, qu'on documente. Et donc là, on a fait une première répétition avec ce musicien. On a essayé le patch, le programme qui permet de faire la partie électronique. Et voilà, il dit, mais ça, ça sonne un peu ancien. Est-ce qu'on ne pourrait pas, par exemple, la rivière qui est là, mettre une rivière de meilleure qualité, etc. Donc, la question aussi, là, le problème, c'est de préserver les instruments, mais de préserver les sons, les sonorités qui ont été construites par un compositeur. Est-ce qu'on va mettre à jour, effectivement, quand je suis arrivé à l'ERCA, qui était issu d'une musique populaire, avec l'habitude de travailler en studio, effectivement, je trouvais qu'il y avait l'air pour trouver la voix, elle était un peu rudimentaire. Mais voilà, en même temps, il y a des tas de titres, des sophistiqués. Mais voilà, est-ce que on va modifier des pièces en les accueillant de réalité sonore, ou est-ce qu'on respecte ce qui avait été fait à l'époque, une sonorité à laquelle une sonorité au terme de l'habitude. Une question auquel j'aime bien avoir des réponses différentes.
Donc, en quelque sorte, vous faites la recherche dans la facture ancienne, mais 20 fois moins lointain que
l'archéologie à 1950.
Les problèmes, apparemment, sont quelque part les mêmes.
Oui, tout à fait. Oui, on va savoir que. Parce que maintenant, bon, on a quand même l'avantage que les pièces d'époque, on a des enregistrements. On sait comment ça sonnait aussi, ce qui n'est pas le cas dans certains instruments.
En fait, je rebondis sur ce que vous dites, parce que nous, on fait un peu tous le même métier, et en fait, on est confronté à des gens qui cherchent un son, que ce soit des musiciens qui veulent un son particulier, pour une époque, une partition, un compositeur particulier, ou bien des gens qui ont entendu et gardé dans l'oreille le son du piano de leurs grands-parents, de leurs grands-pères, de leurs professeurs, ou qui se souviennent d'un piano extraordinaire qu'ils ont entendu lors d'un concert à tel endroit, c'était en 1902 à tel endroit, et ils ont gardé la mémoire sensitive et sonore, et ils veulent la retrouver. Et donc si vous n'avez pas un langage, vous n'avez pas à faire une connexion avec ces gens-là, si vous parlez dans le même langage, c'est pas parce qu'on appuie sur une note que ça fait un son qu'on peut appeler ça un bel instrument. Et c'est pour ça qu'on se heurte dans la facture moderne, hein, tout ce rouleau compresseur de fabrication moderne, à des gens qui ne comprennent pas notre langage à nous. Ces nouveaux clients qui viennent à l'ancien parce que soi-disant c'est moins cher et qui ne comprennent pas du tout notre démarche, à qui il faut réexpliquer les choses. Et là, on se rend compte que bah, nous, on se comprend très bien, on n'est pas du tout de la même époque. Mais par contre, les gens qui arrivent à nous, qui sont dans la cour de jeu commerciale aujourd'hui, vivent où c'est très curieux. Des questions philosophiques à se poser là-dessus.
Merci beaucoup. Bah, on a encore un petit peu de temps. J'ai une petite dernière question. Et après, je laisserai poser des questions. Tous les trois, vous avez un petit peu parlé des structures, des institutions dans lesquelles il est plus facile de faire de manière de préserver. Vous avez parlé du contexte muséal, vous avez parlé d'ERCAM aussi. Et en fait, et par opposition peut-être à l'atelier du facteur instrument qui du coup travaille des particuliers, qui ne peut peut-être pas sur le long terme maintenir ça. Est-ce que vous de votre expérience, quelles sont les structures qui sont les plus utiles justement pour pérenniser les instruments
Je crois que la structure, en fait, c'est que la musique reste vivante, que les gens continuent à être curieux de tout dans la musique, comme on s'était il y a X années, il y a 60 ans, ou 600 ans, ou 200 ans, et cette curiosité qui va faire vivre. Parce que, bon, dans les musées, par exemple, ça dépend beaucoup, beaucoup des personnes qui y travaillent. Donc, pour l'instant, je regrette de le dire, mais les instruments de musique dans les musées, ils n'ont pas le vent pour. Il y a beaucoup de collections qui ont été remisées, des belles collections, qui ne sont plus mises en valeur. Ces instruments continuent d'exister, mais dans des réserves. Donc vraiment, le patrimoine, c'est nous, à nous, de le maintenir en vie.
Du coup, je peux rebondir sur ma collection. Parce que oui, en fait, les institutions, soit n'ont plus d'argent, sont en trop de stock et n'ont pas de capacité à lancer des ateliers pour faire la restauration importante. Donc en fait, soit il y a des mécènes importants qui vont aider au niveau plus élevé, comme les tambours, comme les musées en Europe, le MIM fait aussi beaucoup de choses. Mais en fait, tout vient grâce à nous, les artisans, en tout cas des initiatives privées pour conserver ces choses-là. En Europe, il existe plusieurs collections d'instruments, je parle toujours pour les pianos. Il y a quelques collections qui sont très belles, qui permettent aux musiciens d'aller enregistrer sur instruments d'époque. Moi-même, depuis 15 ans, voyant que c'était la décrépitude pour tous nos bons pianos, j'ai pris sur moi de faire une collection de pianos-concerts, pas de tous les pianos, parce que c'est impossible, je suis pas un musée, mais par contre de grands pianos-concerts pour justement faire venir aux pianos anciens de plus en plus de nouvelles générations. Et en plus, il y a Paris dans le 16e. Et je restaure moi-même les instruments que je choisis de conserver. Tous les instruments que vous pouvez voir chez moi partent à la poubelle. Et j'en ai encore une trentaine que je stocke.
Quand même.
Donc j'ai largement de quoi travailler. Je sais pas quelle est la retraite, on se verra. Et donc je crois que dans les entreprises privées qui pourraient être aidées par des mécènes privés sur justement cette idée de non-rentabilité, parce que c'est absolument pas rentable, je le dis tout de suite. Des sous tous les jours, mais quand je reçois des musiciens étrangers qui viennent essayer le piano ancien, qui connaissent déjà, parce qu'il n'y a pas de piano français dans le monde entier, ou bien qui passent dans des, je ne vais pas dire le nom, mais dans des endroits très connus en Italie, qui essaient des pianos français dans des tacatacismo, et qui se disent « Ah, oh, vos pianos sont vraiment merveilleux, parce que quelle casserole j'ai entendu là-bas » et donc qui se rendent compte qu'avec un beau travail, un long travail, on peut conserver ces instruments et qu'ils sont toujours là, qu'ils ont toujours quelque chose à dire. Donc on n'est pas concurrentiel avec le monde du neuf, on est, j'ai toujours l'habitude de dire, qu'on navigue le concert, comme dans la facture de bateau. Le patrimoine maritime, il est un peu la même chose que le patrimoine musical. On coule et puis on monte, et on va pour vraiment se marrer. Donc, seules initiatives personnelles d'artisans ou de passionnés ou de musiciens permettront de conserver des collections. Après que ces collections soient totalement représentatives de la sonorité vieille arrivée jusqu'à nous, ou bien de tous les efforts de certaines personnes pour retrouver du son ancien qui est quand même une chimère très difficile à atteindre, ça nécessite de l'argent, donc il faut forcément les mécènes. Là, ils ne viennent pas de l'artisanat, parce que nous-mêmes, on est là-dessous, par définition. Donc, il faut des mécènes privés. Mais les institutions, par elles-mêmes, elles nous lâchent les unes vers les autres. Ça, c'est une évidence absolue. Donc, la transmission des savoir-faire, c'est une bonne chose. Tout le monde nous parle de la transmission, qu'il faut garder les métiers d'art. Tout le monde dit aux jeunes, venez dans les métiers d'art, c'est vachement bien, venez vivre de votre passion. Mais vivre de sa passion, ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup d'engagement. Et c'est pas l'autre chose. Mais c'est beau.
Merci beaucoup. Je propose qu'on prenne une question du public, si on si a la place.
Juste pour regarder et faire le lien entre la table de l'économie et cela, on voit bien qu'il y a une. Le pouvoir pour tout un grand plan, et le plan le plus important, parce que notre activité est encore dans l'économie réelle, mais de consolider les systèmes pour garder ça. On a bien vu l'enjeu de l'obsolescence, et là, la dernière entrée qui propose, qui est super intéressant, c'est comment on fait pour ce qui relève du patrimonial, mais fondamentalement du musical. C'est pas du patrimoine pour du patrimoine, c'est pour l'expression musicale, la diversité de musicale. Quelle réalité on donne ça dans un monde qui n'est normalement que rentabilité, quand l'existence est conditionnée par une idée de rentabilité économique, et où on crée cette zone, comment crée-t-on cette zone qui permet de conserver ces bulles spatio-temporelles qui nous permettent de voyager dans le temps, mais sachant qu'il y a aussi et on voit pour du patrimoine d'Afrique, je pense aux églises du 19e siècle, on ne va pas garder toutes les églises du 19e siècle parce que ça n'a pas de sens à l'heure actuelle. Donc il va falloir aussi accepter, et on fait d'ailleurs tous les jours, il faut accepter qu'une partie du patrimoine disparaisse, mais il faut garder et les savoir-faire et les objets en eux-mêmes. Et je pense que ça, c'est. On n'a pas de solution, mais ça fait partie des questions qu'on doit se poser collectivement et les collections privées d'instruments, elles sont associatives, ou tous ces projets autour de ces. C'est vraiment quelque chose de fondamental, d'assez essentiel et précieux pour avoir tout conserver tout ça. Et je pense que c'est nécessaire de conserver tout ça. Et la réalité économique des savoir-faire, je crois qu'on peut surtout. Vous savez, votre investissement, parce que la valeur économique des pianos qui passent entre votre main, ben, la valeur de vos restaurations est finalement plus importante que la valeur économique. Et je voulais conclure en disant que sur le violon, c'est plus petit, c'est souvent moins cruel quand je vois, et ça peut rester. Et il y a le moment où on se retrouve, nous, les professionnels, on doit dire stop encore. C'est nous qui décidons si c'est la dernière chance de l'instrument ou si elle est déjà passée. Là, c'est des moments où il y a des moments où c'est simple. Il y a des moments où c'est compliqué. Ça peut être un petit instrument d'étude, hein, il vous fait du coin de l'œil. On sent la petite main, alors c'était le petit apprenti qui faisait les F et quelque chose terriblement émouvant, tellement juste dans ce bout de geste, et on dit ben non, mais il est fichu votre instrument, mais surtout ne mettez pas la poubelle quand même, quoi. Je ne sais pas comment faire.
Exactement, en fait c'est tout à fait vrai, on ne peut pas tout restaurer. Ouais. C'est valable dans tous les métiers, notamment les patrimoines bâtis, aussi le patrimoine bâti. On ne peut pas restaurer tous les instruments, ça c'est une évidence, on ne peut pas tous les conserver, parce que aussi tu connais le problème. Déjà, les stocks de rentabilité, c'est des sous. Et en fait, ce qui est important si on veut transmettre, c'est la qualité de l'instrument. Pour attirer les gens, attirer le musicien, attirer les néophytes. Donc, c'est très important de conserver ces instruments, mais il ne faut pas non plus jeter les autres. C'est là qu'il faut garder les objets muséales pour la conservation, pour la compréhension, pour la recherche, pour ne pas oublier et définitivement tout mettre à la poubelle, parce que casser, c'est facile. Et construire, c'est très difficile. Mais il faut aussi que ces instruments fonctionnent correctement, donc il faut quand même des ateliers. Donc, on est dans une spirale qui est là, et que des ateliers qu'on reste là, c'est toujours des gens qui viendront, des gens du privé qui viendront pour les faire revivre. Quand on propose un instrument avec une marqueterie formidable, pas très loin, hein, par nouveau, mais que c'est un instrument 1898, porte par lettre, on s'en fout, vieille mécanique, ça ne joue pas comme il faut. Qu'est-ce qu'on fait? On met à la poubelle, ou on se dit, mais c'est pas possible, ce travail magnifique qui a été fait ne peut pas être détruit. Donc, effectivement, la question se pose, est-ce qu'on le garde tel quel pour juste être un témoin, comme dans les musées, ou alors on va se dire, bah, on garde pour la retraite, et on augmente le nombre de pianos à restaurer pour la retraite. Parce que si on le détruit, en fait, on détruit un peu de tout ce qu'on est en train de dire. Donc, ça n'a pas de sens.
Je reprends un petit peu, hein, parce que je dois dire qu'une très bonne partie de mon travail de restaurateur, c'est d'essayer de défaire et de refaire un peu mieux des bêtises de restaurateurs. Donc, j'apprends parfois beaucoup, beaucoup plus de l'épave qui est vraiment définitivement en service, mais qui est venue sans altération. Son narratif est intact, si on veut. Donc, je plaide aussi pour les épaves. Et juste comme un petit coda, j'ai emmené cette magazine, cette Zeitschrift für Instrumentenbau de 1910. C'était un moment où ça baignait vraiment, c'était extraordinaire, l'essor de la facture instrumentale. Dans un numéro, il y a 4 pages de propositions d'embauche dans la facture instrumentale. Donc c'est un moment qui est bien sûr passé, mais on peut en pleurer un petit peu. Voilà, je vous invite de la regarder.
Merci beaucoup.